Santé.
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 C'est bon pour la 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 santé. Eh oui, c'est bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M. Marianne Paquette pour vous accompagner au cours des 60 prochaines minutes. Bon appétit si vous êtes attablé en direct, c'est l'heure du lunch. Et bienvenue si vous êtes en balado-diffusion. Aujourd'hui, à l'émission, on se rend du côté du Nouveau-Brunswick. On voyage beaucoup à travers cette émission pour parler à Muriel Bourgeois. Elle est directrice générale du service d'aide à la famille d'Edmundston-Grand-Sault, où des personnes aînées offrent des soins à domicile à des personnes aînées, comme c'est bien fait. Tout ça. Thomas Godet aussi de Ludociel pour tous nous parle de la sortie du jeu accessible Vic d'Or, conçu en collaboration avec l'école spécialisée Victor Doré, qui s'occupe en ses murs, en fait, des jeunes vivant avec des handicaps cognitifs et moteurs. C'est un jeu Vic d'Or qui aide à la communication, à la concentration des jeunes en situation de handicap, et il sera avec nous en studio pour nous en parler davantage. Aussi Isabelle Ouellette-Morin, elle, psychologue chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, nous présente une application mobile qui s'appelle Plus fort et qui aide de jeunes victimes d'intimidation. Et comment choisir un bon jouet pour Noël? C'est la question que se posent de nombreux parents en ce moment, à quelques jours de cette grande fête, hein, pour les enfants et les grands aussi, Noël. Ce jouet que l'on veut, oui, éducatif, durable, pas trop cher, mais surtout amusant pour nos petits, eh bien, on aura les conseils de l'orthophoniste Agathe Tupula-Cabola pour nous aider à choisir un bon jouet pour nos petits. Mais tout juste avant, on se tourne vers Anne-Laure Janson, recherchiste de cette émission pour la revue de presse de la semaine. Bonjour Anne-Laure Janson.
Bonjour Marianne.
Dernière revue de presse, oui, avant ce congé de maternité afin d'accueillir ce petit ou cette petite. Donc, on en profite pour ces derniers 6-8 minutes avec vous, Anne-Laure. Premièrement, on se tourne du côté de Victoriaville, un organisme qui a reçu un prix à part entière 2016, lauréat en fait de ce prix pour un gym ou un centre de conditionnement physique accessible et inclusif.
C'est ça, un projet collectif, donc dans la catégorie ministère et réseau, du prix à part entière 2016. Le prix est remis tous les 2 ans par l'Office des personnes handicapées du Québec, on le sait. Il vise à rendre hommage aux personnes et organismes qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Et il est remis aussi dans le cadre des festivités du 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet collectif? En effet, c'est un premier circuit d'appareils de conditionnement physique inclusif à Victoriaville, qui est né d'un partenariat, en fait, entre le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec, entre, donc, avec la ville de Victoriaville et aussi le Centre de conditionnement physique Maxiforme. Donc, c'est une fierté d'avoir participé à ce projet permettant à toute personne vivant avec des limitations physiques d'avoir accès à des appareils adaptés contribuant au maintien et au développement de ses capacités, a déclaré Lynn Girard, directrice du programme Déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique du CIUS de la région. Une consultation publique, il faut le savoir, avait été faite au préalable pour le plan stratégique en accessibilité universelle de la ville. Et il avait permis de constater le peu de possibilités pour les personnes handicapées de participer à des sports adaptés ou à des activités physiques en salle de conditionnement. Donc c'est ainsi que s'est fait la mise en place d'un circuit de 7 appareils de conditionnement adaptés au gymnase Maxiforme. Les appareils, l'acquisition a été rendue possible grâce à la mobilisation de plusieurs fondations locales. Et il y a eu aussi un réaménagement des vestiaires afin d'en faciliter l'accès.
Mm-hmm. Sujet assez intéressant dans le cadre de C'est bon pour la santé. On y reviendra peut-être en 2017, creuser un petit peu cette initiative. Mm-hmm. Maintenant, un article de Cathy Bazinet qui nous parle de maladies rares et médias sociaux.
Exactement, c'est dans l'agence, c'est à l'agence Science, pour l'agence Science Presse, pardon, qu'elle écrit. Et elle revient sur la force des réseaux de patients et de proches. Seuls nous sommes rares, ensemble nous sommes forts. Cette devise résume à elle seule le pouvoir des médias sociaux à briser l'isolement des personnes qui souffrent de maladies rares et souvent orphelines. c'est-à-dire pour l'école, il n'y a pas de traitement autre que le soulagement des douleurs. Donc, maladie rare, barre oblique orpheline, soutien et référence est un groupe Facebook qui a été créé déjà il y a 3 ans par Stéphanie Leclerc, mère d'une enfant atteinte du syndrome Pelant-McDermid, en constatant l'absence d'une communauté spécifique au Québec. Elle est membre du regroupement québécois des maladies orphelines et ce regroupement a été impliqué dès le début dans la création du groupe Facebook. Si de tels organismes tels que le RQMO peuvent contribuer à faire avancer les connaissances sur les diverses maladies rares et orphelines, les médias sociaux présentent des avantages complémentaires évidemment pour soutenir leurs efforts en ouvrant de nouvelles perspectives aux patients et à leurs proches, leur permettant de se regrouper pour partager de l'information, échanger sur les aléas de la maladie, les stratégies pour rendre le quotidien plus facile, unir leurs efforts pour faire progresser la recherche et les traitements disponibles. Donc, elle rappelle ce groupe important pour les maladies rares et orphelines. Maladies rares, barre oblique orpheline, soutien et référence.
Sur Facebook. Maintenant, pas de lien entre l'autisme et la grippe pendant la grossesse. On s'en doutait, mais Radio-Canada y revient avec cette nouvelle.
Oui, publie un article. C'est une étude américaine qui le rappelle, qui a fait toutefois une vaste étude auprès de 200 000 enfants. Donc, 200 000 enfants, 1,6% de ces 200 000 enfants pardon, qui ont participé à l'étude, donc la maman était enceinte de 25 semaines de grossesse à l'époque, ont reçu le diagnostic d'autisme. Parmi les mères de ces enfants, moins de 1% avaient été contaminés par la grippe et près de 23% de ces mamans avaient reçu le vaccin contre la grippe. Donc, Lisa Crohen, auteure de l'étude et docteur au Kaiser Permanente Northern California à Oakland, indique que les données présentent aucun lien entre la grippe chez une femme enceinte et le développement du TSA chez son enfant. Elle estime qu'il n'est pas nécessaire donc de modifier la politique de vaccination contre la grippe chez les femmes enceintes. Nous les encourageons à se faire vacciner pendant leur grossesse, souligne-t-elle. Ouais. Parce que, évidemment, il y a eu plusieurs études qui ont exploré un lien possible entre la grippe et le développement de l'autisme chez l'enfant. Mais la docteure Cohen et ses collègues précisent qu'aucune d'entre elles ne s'était intéressée au vaccin contre la grippe recommandé aux femmes enceintes. Et contracter une grippe au cours de sa grossesse représente aussi son lot de dangers. Notamment un risque d'accouchement prématuré et d'anomalies congénitales. Et les vaccins ont souvent été une source d'inquiétude, en effet, chez plusieurs parents, mais les données suggèrent qu'ils n'ont pas de lien avec un risque accru d'autisme et avec toute autre complication périnatale, reconnaît une docteure experte en grossesse à risque élevé à l'Université de Rochester de New York.
OK. Ça a de quoi de rassurant pour les jeunes mamans. Et en terminant, dernière nouvelle, cécité des enfants. En fait, du côté de la France, là, la cécité chez les enfants pourrait être facilitée, en fait. Ils pourraient développer davantage de confiance en eux en compagnie d'un chien.
Oui. C'est la première fois, en fait, qu'une étude de la sorte est menée pour étudier l'influence de la présence d'un chien guide sur le développement d'un enfant déficient visuel. Des chercheurs ont sélectionné 8 familles de petits en bas âge, aveugles de naissance. Ce projet a débuté en 2014. Il est inédit en Europe et prendra fin en 2020. Alors, ils s'appellent Abigail, Jeanne, Noane et Lisa. Ils habitent Lille, Quimper, Niort et Agen, ont entre 15 mois et 3 ans et demi. Tous sont aveugles de naissance et depuis septembre, ils sont accompagnés d'un chien d'assistance qui a été formé pour ça pendant 2 ans. Ces jeunes enfants bénéficient d'un programme mis en place par la Fondation Mira Europe. Avec des chercheurs de l'Université de Lyon, le centre mène un projet d'étude sur la présence du chien d'assistance auprès de jeunes enfants, l'idée étant d'analyser l'influence du chien sur le développement psychomoteur, cognitif et sensoriel ralenti par la cécité. Les 8 familles ont été sélectionnées, le centre a confié à 4 d'entre elles un chien guide, les 4 autres n'en ont pas et ainsi on peut comparer le développement de ces enfants avec l'hypothèse que l'introduction du chien va permettre le développement plus rapide. Et c'est ce qui se passe, en fait. Équipées de caméras, les familles envoient tous les mois des scènes de la vie quotidienne permettant d'observer l'enfant. C'est la première fois aussi, il faut le savoir, que des chiens sont confiés à des enfants aussi jeunes. D'habitude, c'est plutôt à partir de 12 ans. Et ils peuvent déjà, les chercheurs, constater des modifications de comportement chez les enfants qui vivent avec un chien. Certains se déplacent différemment, adoptent une attitude plus confiante, un comportement qu'ils n'avaient pas avant l'arrivée du chien. L'intégration de ce nouveau membre entraîne effectivement une certaine curiosité, un questionnement qui va influer sur le développement de l'enfant.
Évidemment, à moyen et long terme, bien sûr. Anne-Laure Janson, c'était ce moment où on vous remercie et on vous souhaite bonne chance, un bel accueil pour ce nouveau. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Là, voilà, voilà. Alors, nouveau-né à venir dans votre famille. Merci,
Anne-Laure. Merci, Marianne.
Bonjour Agathe.
Bonjour Marianne.
Agathe Chipulac-Cabola, orthophoniste, auteure, directrice générale de la clinique ProAction. On est là pour parler d'un sujet que l'on peut dire, que l'on peut nommer d'actualité, à savoir comment on choisit un bon jouet pour Noël. Le jeu, tout d'abord, Agathe, c'est important. C'est le boulot de l'enfant et c'est pas à négliger.
Tout à fait. Le jeu, en fait, est l'un des précurseurs essentiels au développement du langage chez les enfants. Et à travers le jeu, les enfants vont réaliser une panoplie d'apprentissages. Ils vont apprendre à jouer à tour de rôle, ils vont apprendre également à partager, ils vont développer leur vocabulaire, développer leur capacité à résoudre des problèmes, leur imagination, leur créativité. Donc, c'est vraiment une base qui est essentielle à développer chez l'enfant.
Et ça a beaucoup de fonctions. Le jeu peut avoir beaucoup de fonctions. C'est d'ailleurs un critère hein, que l'on doit observer.
Exactement. Donc, différents jeux. En fait, un jeu peut développer différents aspects chez l'enfant. Donc, c'est important quand on choisit un jouet pour son enfant, d'abord d'observer quel est le niveau de développement de notre enfant, mais aussi quels sont ses intérêts. Donc, qu'est-ce qui intéresse notre enfant de façon générale? Est-ce que ce sont les animaux, par exemple, les moyens de transport? Est-ce qu'il s'intéresse à la construction? Donc, à la base, on part des intérêts de l'enfant, mais on essaie de choisir un jeu qui va être aussi en lien avec ses capacités actuelles.
Mm-hmm. Bon, et un jeu qui peut avoir différentes fonctions, amener notre enfant à être actif aussi, c'est un critère à observer.
Oui, exactement. Et donc, un jeu peut être plus moteur ou ça peut être également être un jeu plus de société ou un jeu de table. Dans les deux cas, ça peut être des aspects intéressants pour l'enfant, dépendamment de ce qu'on veut stimuler.
Mm-hmm. Mais ce que je trouvais intéressant, Agathe, et j'ai envie d'en parler pour les parents qui nous écoutent, parce que je trouve que ça peut être vraiment outillant. Je reviens en fait au jeu qui a plusieurs fonctions, le jeu qui rend actif. Un Lego, c'est pas comme un jouet à batterie là, qui a un temps, qui amène pas notre enfant à être actif.
Tout à fait, parce qu'avec les Lego, avec les blocs, l'enfant est responsable d'une grande partie du jeu. C'est un jeu, il va devoir inventer, il va devoir créer des scénarios, par exemple, construire un château, faire une tour. Donc, l'enfant participe plus qu'un jouet à pile, par exemple, où là, l'enfant appuie sur un bouton et puis le mécanisme s'active, mais l'enfant a peu de responsabilité à travers le jeu, c'est-à-dire que la plupart des actions sont en lien avec le jouet en tant que tel, plus que l'enfant. Donc, il y a un psychologue qui s'appelle Dodson qui a déjà dit, en fait, que quand le jeu, quand l'enfant est responsable à 90% mm-hmm. du jeu, c'est ça qui est un bon jouet et non l'inverse.
Oui, ça, je trouve que c'est très, très intéressant. Agathe, est-ce qu'il faut se fier à l'âge de notre enfant pour choisir un jouet?
C'est une très bonne question. Quand on s'intéresse aux jeux et qu'on regarde l'emballage dans les magasins, on va voir souvent qu'il y a des tranches d'âge qui sont indiquées sur les boîtes. Et puis, on peut se questionner à savoir, bon, est-ce que faut vraiment se fier à l'âge qui était indiqué sur la boîte? Est-ce qu'on peut prendre des jeux qui sont plus avancés si on veut que notre enfant réalise des apprentissages plus poussés? Je dirais qu'en général, l'âge qui est indiqué sur la boîte, ça peut nous donner une bonne idée, un bon repère. Mais en même temps, il y a des jeux pour lesquels ça va être indiqué, par exemple, de 2 à 5 ans, mais qui peuvent plaire aussi à des enfants plus vieux. Donc, il faut garder ça en tête. Moi, des fois, ce que je fais en clinique, quand je vois qu'un enfant s'intéresse à un jeu qui, normalement, s'adresse à des enfants plus jeunes, je vais cacher l'âge qui est sur la boîte parce que parfois, l'enfant ne voudra pas jouer. Il va dire que c'est trop bébé, alors qu'il pourrait très bien réaliser des apprentissages pertinents avec ce jeu-là.
Oui. Souvent, en tant que parent, on veut maximiser le développement de notre enfant, viser son plein potentiel. C'est une bonne chose. Donc, souvent, on veut le jouet éducatif, presque scolariser l'enfant avant même son entrée à l'école, d'absolument choisir ou viser un jeu éducatif. Est-ce que c'est toujours une bonne chose?
En fait, on voit souvent l'étiquette jeu éducatif donc dans les commerces, mais il faut comprendre que c'est d'abord une étiquette qui vise à vendre le jeu. Mais à la base, tous les jeux sont éducatifs. Il suffit d'adapter un jeu ou un jouet à notre enfant en fonction de ses intérêts et de son niveau de développement. Donc, il ne faut pas penser qu'un jeu dit éducatif est supérieur à un autre jouet.
Mm-hmm. J'ai lu dernièrement, Agathe, le meilleur jouet de votre enfant ou l'un des meilleurs jouets de votre enfant, c'est le livre. Vous êtes d'accord avec ça?
Ah, 100 % oui, tout à fait. Le livre, en fait, est très intéressant pour les enfants de tous les âges, même à l'âge de quelques mois, donc vraiment quand ils sont des bébés. Puis la lecture, ça a été démontré par plusieurs études. C'est une activité qui, quand elle est faite en bas âge, sur une base régulière, va amener beaucoup de bienfaits chez l'enfant au niveau du langage, du développement du vocabulaire. Ça bâtit la capacité d'écoute, ça développe la créativité, l'imagination. Et puis ça prépare aussi les enfants à la lecture plus tard, donc quand ils feront leur entrée à l'école. Et puis ça a été démontré qu'un enfant qui est exposé en bas âge à la lecture régulièrement, quand il commence la maternelle, souvent, il va avoir un niveau de vocabulaire plus étendu qu'un enfant à qui, malheureusement, on n'a pas fait la lecture souvent. Mm-hmm. Et puis, il va avoir très souvent également un goût de la lecture qui va être plus accentué. Mm-hmm. Parce que quand l'enfant se sent compétent dans une tâche, souvent, il y a plus de plaisir.
Oui. Un plaisir aussi à apprendre. Et ça, c'est déjà un grand outil à donner à notre enfant, le plaisir d'apprendre.
Tout à fait. Et énormément d'apprentissage passe par la lecture.
Oui. Je veux aussi parler d'alternatives au petit budget, en fait, des alternatives pour les parents qui nous écoutent. La période des fêtes, ça entraîne de nombreuses dépenses. On n'a pas besoin de dépenser beaucoup pour trouver un bon jouet pour notre enfant.
Tout à fait. Donc, on peut trouver d'excellents jouets à très faible coût. Donc, par exemple, les magasins 1$ regorgent d'activités en tout genre. On peut penser à du matériel d'art plastique, pâte à modeler, crayons de couleur, cahiers à colorier. Il y a même aussi une panoplie de jeux de faire semblant au magasin 1$. On peut aussi se diriger vers la joujouthèque de son quartier ou à la bibliothèque de son quartier. Parfois, c'est possible de faire des emprunts de jouets ou des ventes de garage également serait une possibilité intéressante à regarder. Mm-hmm. Donc, ne pas hésiter à se diriger vers l'usager. Puis, garder en tête aussi que souvent, quand on fait l'achat d'un jeu qui est plus dispendieux, donc par exemple un jeu à batterie, l'enfant ne va pas s'y intéresser si longtemps que ça. Et puis, même ce qui est comique parfois, c'est qu'on va voir que l'enfant s'intéresse plus à l'emballage ou à la boîte qu'au jouet en tant que tel qui est à l'intérieur.
Oui, et c'est intéressant ce que vous dites parce que je me mets dans la tête des parents qui nous écoutent. Les boîtes de carton, les emballages, les plats Tupperware, ça attire les enfants. Les enfants aiment jouer avec ça. On laisse notre enfant manipuler ses objets et jouer avec ça.
Oui, parce que la boîte ou l'emballage peut avoir différentes fonctions. Pour nous, c'est une simple boîte, mais pour l'enfant, ça peut être un garage pour ses camions, ça peut être un château, ça peut être un ensemble pour faire de la cuisine. Donc, l'enfant, à travers son imagination, va attribuer à cet objet différentes fonctions. Et ça, c'est excellent pour le développement de son langage.
Oui. Maintenant, pour des enfants qui ont des besoins particuliers, est-ce qu'il y a des jouets plus appropriés ou des jouets spéciaux pour eux?
C'est une très bonne question. Il y a des enfants qui ont des particularités au niveau du développement. On pourrait penser, par exemple, à une particularité au plan sensoriel, des enfants qui sont sensibles à certaines textures ou à certains sons. Donc, il y a des jouets qui, pour eux, pourraient être trop stimulants ou, à l'inverse, pas assez en fonction de leurs besoins sensoriels. Donc, je dirais que dans le cas de doute, on peut poser des questions aux spécialistes qui voient notre enfant qui intervient auprès de lui. On peut se référer aussi à son éducateur ou à son éducatrice en garderie qui pourra aussi nous donner des conseils fort utiles au moment de choisir un jouet en fonction du développement de notre enfant. Mais gardez en tête que faut pas nécessairement un jeu spécialisé pour un enfant qui a des défis particuliers. On peut prendre un jeu qui s'adresse aux enfants, peu importe leur niveau de développement, mais l'adapter à notre enfant. Par exemple, en simplifiant les règles du jeu ou mm-hmm. en retirant certaines parties du matériel dans la boîte. Donc, ça demande de s'adapter.
Oui. Et en terminant, en quelques mots, qu'est-ce qu'on doit éviter dans les critères d'un jouet lors de nos courses, de notre magasinage?
Bien, une chose qui revient souvent, c'est la fameuse croyance que les jouets ont un sexe. Par exemple, on va pas vouloir offrir des poupées à un garçon et on aura moins tendance à offrir des autos à une fille. Mais en fait, il faut garder en tête que les jouets n'ont pas de sexe. Donc, c'est correct qu'un garçon s'intéresse à différents jouets et qu'une fille aussi. Je dirais aussi de privilégier les jouets polyvalents, donc éviter les jouets qui, en fait, avec lesquels les enfants ne seront pas très actifs au niveau de l'imagination, mm-hmm. avec lesquels ils n'auront pas élaboré de scénario, par exemple.
Ouais.
Donc,
Ça revient un peu au début de notre discussion, Agathe, avec les jouets multifonctions, de voir beaucoup de possibilités dans un jouet. Souvent, c'est gagnant pour notre enfant et pour nous aussi à long terme. Agathe Pula, vous êtes orthophoniste, directrice générale de la clinique ProAction. De joyeuses fêtes à vous.
À vous aussi, Marianne. Merci beaucoup.
Au plaisir. Bye-bye.
Bye.
Isabelle Ouellette-Morin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Et là, pour nous parler de cette application mobile Le Plus Fort, d'une part, s'intéresse à parler de ce phénomène-là, mais à trouver aussi des stratégies pour les jeunes, ce qui est assez innovateur. Il n'y en avait pas avant de ce type d'application, du moins en français.
Absolument. Il n'y en avait pas du tout en français. Et celles qui existent en anglais avait soit pour fonction simplement de donner de l'information ou, par exemple, de dénoncer un autre jeune qui est timide ou aider les jeunes à se familiariser avec ce phénomène-là. Donc, en plus de donner de l'information, l'idée avec Plus Fort, c'était d'aller au-delà de ces applications existantes et d'initier une démarche de changement auprès des jeunes.
Oui. C'était une façon aussi de les rejoindre où ils sont, d'une part. On sait, les jeunes, les ados sont beaucoup sur leur téléphone intelligent, sur différentes plateformes plutôt mobiles. Mais en même temps, et ça, je trouve ça intéressant, Isabelle, de les suivre de l'école à la maison, dans leurs loisirs, à l'autobus. Pourquoi ça devait être important de les suivre?
Ben en fait l'idée c'était de les suivre, oui. Je pense que l'idée était de trouver une plateforme qui était intéressante pour eux et surtout qui permettait aux jeunes qui vivent l'intimidation, qui décident initialement de pas en parler à un adulte, à une personne de confiance, d'avoir tout de même de l'aide. Alors ça voulait vraiment constituer un pont entre le moment où ils sont seuls, sans service, et au moment auquel ils décident de partager ces expériences avec quelqu'un en qui ils ont confiance.
Oui. L'application Plus Fort a été testée sur des jeunes. Quel est le retour de cette utilisation, au fond? Qu'est-ce que ça vous a appris sur cette application, Isabelle?
Bien, en fait, c'est vraiment un test préliminaire qui a été exécuté. Dans un tout premier temps, on a voulu savoir, alors qu'on était encore en train de développer l'application, si les jeunes et les parents et les intervenants, de quelle façon ils voyaient l'application. Ça nous a permis de savoir qu'on était sur la bonne voie, mais aussi de pouvoir améliorer certaines fonctions de l'application. C'est ce qu'on a fait. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé à produits plus avancés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est, on a sollicité la participation de 12 jeunes, de 12 à 16 ans, qui vivaient de l'intimidation. Et on les a invités à tester l'application, à l'utiliser pendant 4 semaines. Et ensuite, avant et après, on leur a demandé quelle était leur la fréquence avec laquelle ils étaient intimidés, mm-hmm. et de décrire leurs expériences d'utilisation. Et ce qu'ils ont dit, on a observé d'abord une diminution d'à peu près la moitié des expériences d'intimidation en 4 semaines, ce qui était assez impressionnant, malgré le fait qu'on observe ça seulement auprès de 12 jeunes à ce moment-ci. Et ensuite, on a vu que ils nous ont rapporté qu'ils aimaient beaucoup le fait d'être autonome au départ, qu'on ne les force pas à partager, malgré le fait que la plupart ont décidé de, en fait tous ont décidé de rompre le silence après avoir utilisé plus fort. Donc c'était encourageant. Et aussi donc l'aspect anonyme, confidentiel, mm-hmm. ce sont des choses qui se sont révélées comme très intéressantes pour eux. Et aussi le fait de pouvoir, via l'évaluation régulière qu'ils faisaient de leurs expériences d'intimidation, de voir qu'il y avait un problème. Et non seulement identifier un problème pour un problème, mais qui leur donnait une motivation supplémentaire pour prendre des actions pour régler ce problème-là.
Oui. Et aussi d'avoir d'autres personnes au bout, je dirais au bout du pouce, là, pour échanger, parce qu'on n'en parle pas nécessairement avec un adulte, mais il y a une communauté plus forte permet d'avoir accès à d'autres personnes et d'échanger avec eux.
Oui, mais ce n'était pas encore disponible au moment de cette étude-là. Alors, c'est vraiment l'interaction du jeune avec l'application qui était à ce moment-là en action. Et ensuite, si vous me permettez, on est allé aussi, au-delà de ces jeunes-là, on est allé dans 2 écoles secondaires et on a sollicité la participation encore là de 45 jeunes, la plupart victimes et certaines non-victimes qui ont utilisé l'application pendant de 4 à 6 semaines. Et encore là, on voyait vraiment une diminution de leurs expériences d'intimidation à ce moment-là. Mmh. Donc, ce qui nous a donné davantage confiance de rendre cette application public, parce que vous savez, lorsqu'on fait des interventions, lorsqu'on propose des sources d'aide aux jeunes comme à n'importe quelle personne, il faut s'assurer d'abord, minimalement, qu'elle est susceptible d'aider les gens.
Oui, tout à fait, et de ne pas leur nuire.
Alors que c'est pas le cas, absolument pas pour la grande majorité des applications qui sont disponibles sur App Store.
Plusfort.org, disponible sur iPhone et iPod. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit, Isabelle, on ne veut pas qu'il ait à l'utiliser longtemps parce qu'on veut que ça fonctionne. Isabelle Ouellette-Morin, psychologue et chercheure au Centre de recherche à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Merci.
Merci.
Vous écoutez C'est bon pour la santé avec Marianne Paquet.
Deuxième partie de cette émission, toujours, c'est Marianne Paquette. C'est parce que je suis pas habituée d'avoir un petit pont pour me présenter. Tout à l'heure, on rejoint, je vous le rappelle, Muriel Bourgeois du côté du Nouveau-Brunswick pour parler d'un service de soins à domicile pour les personnes aînées et offert par des personnes aînées. Mais juste avant, je me tourne devant Thomas Gaudy de chez Ludociel pour tous. On est là ensemble pour parler de ce jeu vidéo accessible Vigdor qui s'adresse à des jeunes vivant avec un handicap lourd, moteur, intellectuel. Bonjour, Thomas.
Bonjour.
Ludociel, c'est la boîte pour laquelle vous travaillez vous avez mis sur pied ce jeu vidéo accessible qui vient d'une collaboration avec l'école Victor Doré. Comment s'est créé ce lien-là, cette demande-là? Est-ce que ça venait de l'école ou d'une rencontre qui vous a donné envie de créer ce jeu-là?
L'initiative de départ, c'était notre participation au mouvement « Je vois Montréal, je fais Montréal » qui consistait à faire des appels d'actions citoyennes. Notre proposition consistait à concevoir des jeux vidéo en atelier avec différents types de publics. Donc, on avait commencé un premier atelier dans le quartier, l'arrondissement de Côte-des-Neiges. On avait fait un jeu vidéo avec des jeunes de tous horizons. On avait fait un autre atelier encore à Verdun avec des jeunes à Toujours Ensemble pour les familiariser au métier des jeux vidéo et leur montrer un petit peu comment concevoir. Ludociel pour tous, on fait pas mal de jeux vidéo en rapport avec les thématiques de handicap et on voulait que le dernier atelier soit en rapport avec cette thématique.
Ouais.
On faisait auparavant des jeux pour personnes en situation de handicap visuel, donc des jeux sonores essentiellement. Et là, on voulait s'intéresser à d'autres types de handicap, l'handicap moteur et cognitif. Et on avait entendu parler de l'école Victor Doré, on a été leur rendre une petite visite, on leur a proposé le projet et puis on a commencé à travailler ensemble pour élaborer ce jeu.
L'école Victor Doré, elle reçoit des jeunes de 4 à 13 ans. Est-ce que Victor s'adresse à tous ces jeunes-là aussi? Est-ce qu'il couvre tous ces âges-là?
On manque de recul et on n'a pas pu faire autant de tests qu'on l'aurait souhaité. Donc je suis un petit peu embarrassé pour dire exactement quel public peuvent rentrer dans le jeu ou pas. La préoccupation de départ, c'est qu'on voulait faire le jeu le plus grand public possible avec un niveau de difficulté extrêmement bas en fait. Les modalités d'interaction sont vraiment simplifiées au maximum. Et je pense qu'on pourrait encore améliorer plein d'aspects de ce jeu.
Oui, continuer à le peaufiner. Donc, objectif de départ, qu'il s'adresse à un large public, mais il y avait d'autres objectifs aussi. Vous cherchiez à stimuler certaines fonctions, certaines choses chez ces jeunes et le grand public.
Oui, il s'agissait vraiment de faire un outil de stimulation, en fait. La première fois que l'enseignante Annie Duchesne, que je remercie encore pour ses invitations multiples, nous a accueillis dans sa classe, on s'est reçu une baffe en quelque sorte, mais on a été aussi touchés par les enfants qu'elle accompagnait. On s'est rendu compte aussi que nos idées de départ ne collaient pas du tout à la réalité de ces enfants. Et puis, après quelques rencontres, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme outil? On a eu un aperçu de ce qu'ils pouvaient proposer aux enfants. On avait vu qu'il y avait plein de manques, plein de besoins. On se disait qu'il était facile de proposer un outil supplémentaire.
Ouais. Est-ce que vous avez pu voir qu'est-ce que ça pouvait stimuler chez ces jeunes-là ou en parlant avec Annie ou selon vos observations, à savoir la concentration, l'écoute, est-ce qu'il y a vraiment des fonctions que vous avez pu cibler?
Alors, encore une fois, on manque de recul et puis on n'a pas pu faire d'études comme votre précédente invitée qui, dans un centre de recherche, a pu étudier beaucoup de jeunes. Donc, nous, c'était beaucoup plus rapide Et ce qu'on a pu voir, c'est que l'attention des enfants... On a surtout fait un test sur un enfant sur la fin, ce qui est vraiment pas beaucoup, mais ce qui nous a déjà donné pas mal d'informations. Son attention sur l'ordinateur arrive à être maintenue sur une longue période. Une plus longue période, elle a réussi à faire une partie de plus d'une dizaine de minutes et je pense qu'elle aurait pu continuer encore. Elle a ri en jouant, ça c'était quelque chose de très positif. Ouais. On s'est dit que rien que pour ça, ça valait le coup de faire
sûr,
le projet.
Parce que si l'on conçoit un jeu, on veut qu'il y ait différentes fonctions, mais la première, c'est que ce soit amusant, que ce soit
exactement.
Ludique. Ouais. On a, nous, pu communiquer avec Annie Duchesne par écrit. Elle nous a parlé de motivation, de plaisir à jouer, aussi de jouer de façon autonome, ce qui est assez important, de la maintenance de l'attention aussi. Donc, ce sont quand même des aspects qui sont assez intéressants de voir ce que Victor a pu créer. Si on joue une partie de Victor, Thomas, qu'est-ce qu'on voit? Comment ça se passe? C'est quoi la partie?
Alors, je peux vous décrire brièvement le jeu. Excusez-moi. Vous avez un personnage qui est représenté à l'écran. Et ce personnage est près d'un gâteau d'anniversaire et le but scénaristique, c'est de faire une petite balade pour retrouver plein d'amis et les inviter à manger le gâteau ensemble. Donc c'est une idée de partage et de sociabilisation. Les commandes sont très simples. On appuie sur n'importe quelle touche du clavier ou n'importe quelle touche de la souris ou sur un gros contacteur. Et tant qu'on appuie, le personnage avance et si je relâche, le personnage s'arrête. C'est aussi simple que ça, le parcours est prédéfini. Et par contre, il y a plusieurs effets visuels et sonores qui font qu'au fur et à mesure que le personnage va avancer, il va se passer des choses à l'écran, la musique va évoluer, il y a des zones d'ambiance qui vont proposer une espèce de musique relaxante, une musique interactive. Donc on veut un outil de stimulation sonore et visuelle qui aide les jeunes à se concentrer sur des modalités d'interaction et sur des stimulations.
Mm-hmm. Vous avez dit à quelques reprises, Thomas Goddie, que vous manquez de recul face à ce jeu-là. Quelles sont les prochaines étapes pour le peaufiner, pour justement amener un petit peu plus de précision à vos observations?
Donc, effectivement, même si on manque de tests, on sait de toute façon que ce jeu-là, c'est une étape. L'objectif, c'est bien de stimuler les enfants à s'ouvrir sur le monde extérieur. Et là, ce qu'on propose, c'est un jeu vidéo avec un bouton, un écran, des enceintes. Mais même si la stimulation est là, même si on parvient à les faire se concentrer davantage sur quelque chose, le but à terme, ce sera de réussir à les ouvrir sur l'environnement physique, réel, sur des visages, sur des gens, sur l'entourage. Donc actuellement, on va peut-être dans la bonne direction, mais il faut qu'on soit prudent dans les modalités d'évolution du jeu, à ne pas enfermer les enfants sur un écran.
Oui, bien sûr. Est-ce que le jeu pourrait éventuellement être accessible ou s'il l'est, de quelle façon?
Alors, actuellement, son accessibilité, c'est vraiment par des règles de jeu extrêmement simples qui permettent à quasiment tout public d'interagir avec. Une accessibilité pour le handicap moteur, j'appuie sur un bouton, j'avance, j'arrête d'appuyer, le personnage s'arrête. Une accessibilité pour les personnes en situation de handicap visuel, parce que c'est, je parlais de musique interactive, ouais. Les retours sonores sont assez riches, on pourrait bien sûr les développer encore. Il pourrait y avoir d'autres formes d'accessibilité, surtout ces différentes formes d'accessibilité qu'on propose déjà pourraient toutes être améliorées de plein de façons. Finalement, c'est qu'il n'y a pas encore à notre connaissance de jeux de ce type-là. La plupart des jeux vidéo existants ont toujours des points de règles qui les rendent trop compliqués et inaptes à l'utilisation. Et donc là, on se disait, on va proposer ça. Ça peut faire un bon point de départ original et puis on pourra le développer de toutes sortes de façons.
Et si l'on a envie de jouer avec Victor, on fait comment?
On le vend actuellement au prix de 2$. Depuis notre site web sur ludociel-pour-tous.org, vous pouvez tomber sur la liste de nos jeux. Et, 2$, ce n'est pas un grand prix, mais ça peut nous aider à le faire évoluer et à l'améliorer.
Ouais. Maintenant, je veux parler avec vous, Thomas Goddie, de Ludociel pour tous. Petite boîte de conception de jeux vidéo, vous n'êtes que deux. On l'a dit tout à l'heure, beaucoup de jeux destinés aux personnes en situation de handicap, handicap visuel. Il y a Victor aussi là, qui ouvre à des jeunes qui vivent avec un handicap cognitif aussi et moteur. Lorsqu'on conçoit des jeux vidéo que l'on veut accessibles, destinés à des enfants ou à des personnes qui vivent avec des besoins particuliers en situation de handicap, à quoi on doit penser? Il faut changer un petit peu sa vision, changer ses lunettes aussi et connaître à qui on s'adresse, s'intéresser à ces gens-là?
Il y a énormément de thématiques à toucher. Le point de départ, en fait, c'est de considérer le jeu vidéo comme un média, une forme de mass-média, mais qui actuellement n'est pas utilisée à son plein potentiel. Donc, on ne cherche pas à le prendre comme une finalité, c'est-à-dire quelque chose qui doit juste apporter du plaisir, mais comme un moyen d'atteindre des gens. Donc, on essaye d'utiliser le jeu vidéo à des fins sociales. Et en prenant cette considération-là, cette question-là, au départ, on peut trouver toutes sortes d'applications. Actuellement, par exemple, notre projet actuel, c'est de faire un jeu vidéo documentaire dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal. Donc, on propose le jeu vidéo comme base, comme support médiatique pour proposer un documentaire sur l'histoire du quartier de Verdun.
Ouais. Et pour connaître sa clientèle, son public cible, vous avez l'école Victor Doré où vous êtes allé rencontrer ces jeunes-là dans la classe d'Annie Duchesne. Comment vous êtes amené à rencontrer les utilisateurs de vos jeux pour apprendre à connaître leurs intérêts, leurs besoins aussi?
Ici, c'est difficile. Auparavant, on commençait ces activités en France, on avait plus de facilité à toucher notre public. Au Québec, la mise en contact avec les personnes à qui on s'adresse est extrêmement compliquée. En fait, on a beaucoup de mal à les rejoindre. Et après toutes les années qu'on a passées ici, on n'a toujours pas trop d'explications pourquoi c'est plus dur ici de les atteindre.
Et leurs besoins, quels sont-ils? On a parlé tout à l'heure de s'amuser. C'est important et c'est important pour tout le monde. C'est important de le rappeler. Est-ce qu'ils ont d'autres besoins? Qu'est-ce qu'ils recherchent, les personnes en situation de handicap, ceux du moins que vous avez pu rencontrer, que ce soit en France ou ici, dans les jeux vidéo? Qu'est-ce qu'ils souhaitent voir?
Toutes les catégories de public auxquelles on a pu s'adresser, le besoin, c'est certes de s'amuser, mais c'est aussi de se sociabiliser, d'être en contact avec d'autres personnes de sa communauté ou d'autres communautés, de partager une culture commune.
Ouais. Et ça, c'est là qu'on voit que c'est très rassembleur, ça peut être très rassembleur. Et que les besoins, que l'on ait des besoins particuliers de tel ou autre type, ben, ils sont les mêmes finalement.
Et il y a un piège.
Ah ouais?
Il y a un piège, c'est que, en fait, lorsqu'on fait des jeux ciblant spécifiquement un public et qu'on cherche à les rendre accessibles, les jeux qu'on propose ne touchent pas en général le grand public. Ils sont trop spécifiques. Et souvent, ces jeux sont rejetés. Parce que...
Ils sont rejetés du grand public, vous voulez dire.
Ils sont rejetés aussi de la communauté qu'on vise parce qu'ils ne permettent pas ce partage, ce décloisonnement, ce partage de culture commune. Donc, il y a un gros travail à faire là-dessus, à toucher le grand public pour faire en sorte que le partage de culture commune soit effectif avec la communauté spécifique qu'on vise.
Et j'imagine que c'est en continuant ou en tentant de maximiser ces rencontres que vous allez réussir à éviter ces pièges-là.
Je pense que ça marche bien. On va dans le bon sens et on est assez confiants.
Thomas Goddy, vous êtes employé, programmeur également du côté de Ludociel pour tous. Et on était là pour parler de ce jeu Vic'Dor, à qui on espère une grande continuité et beaucoup de développement.
Merci.
Merci. Et on se rend du côté du Nouveau-Brunswick pour parler avec Muriel Bourgeois. Bonjour, Muriel.
Bonjour.
Vous êtes du côté d'Edmundston, c'est bien ça?
Oui, on est à Edmundston, au Nouveau-Brunswick.
Et là, pour nous parler de ce service d'aide aux personnes aînées, un service qui est offert par les personnes aînées, c'est votre agence, Muriel Bourgeois, que vous avez mis en place parce que vous avez identifié un besoin ou un manque dans votre région.
Oui, c'est bien ça. On a 600 clients dans notre région. Ça couvre à peu près 14 villages. Et puis, dans chaque village, c'est ça, on a des personnes âgées qui ont besoin de services à domicile. Et puis, c'est pas toutes les personnes âgées qui travaillent pour nous. On a 300 employés, 300 auxiliaires familiales. On a à peu près 20% de cette population, que ce sont des personnes âgées, des personnes de 66, 67 ans, des dames surtout, en grande majorité, et puis qui donnent un coup de main aux personnes qui sont à domicile et qui ont besoin d'aide.
Oui. Les personnes à qui vous venez en aide, Muriel, donc ces personnes aînées, leur souhait, c'est de rester à domicile. C'est ce besoin-là que vous avez identifié et votre agence, vos services permettent ça.
C'est ça. Ça existe au Nouveau-Brunswick. On a, comme nous, il y a 45 agences qui existent au Nouveau-Brunswick pour offrir des services à domicile aux personnes âgées.
Mm-hmm.
Oui.
Quel est le profil de ces personnes âgées que vous aidez, que vous rencontrez, Muriel?
Vous voulez dire les clients?
Oui.
Oui, c'est des gens qui sont âgés, premièrement, qui ont des problèmes de santé. Souvent des problèmes de déplacement, des hanches, des genoux, des problèmes de cœur, des problèmes de vieillissement. On a des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. On a une panoplie de personnes qui veulent demeurer chez eux et puis de continuer à vivre dans leur maison, d'avoir leur chien, leur chat, leurs fleurs.
Leur routine.
Tout simplement. Oui. Puis nous, on offre la préparation de repas, l'aide aux soins personnels, on les emmène faire leur commission, les visites chez le médecin, des choses comme ça, parce que on sait que la plupart des enfants de ces personnes-là travaillent, et puis ils n'ont pas toujours le temps. Hein. Ils veulent bien, mais le temps est là, le vouloir est là, mais souvent le temps n'est pas là. Hein. Le monde va vite, la vie est vite. Et puis, oui, c'est qu'on a ces gens-là qui donnent un coup de main. Puis, aux personnes âgées, puis ça leur aide, comme je vous dis, à demeurer le plus longtemps possible chez eux.
C'est un service aussi qui aide à briser l'isolement. Vous avez parlé des enfants, de vos clients qui, oui, travaillent, ont des vies bien remplies. Il y a aussi des personnes âgées qui ont un réseau qui est peut-être un peu plus mince aussi.
Absolument. Oui. Vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. Souvent, l'auxiliaire, on les appelle les auxiliaires familiales, font partie presque de la famille. Hein. Il y en a que ça fait 5, 6 ans, 10 ans qu'ils sont avec la même cliente, si vous voulez, ou le même client. Et puis, ça, ils se créent des liens, c'est ça, ils jasent de tout et de rien. Puis, nous autres, ce qui est le fun là-dedans, c'est que dans chaque village, on a des gens, des auxiliaires familiales qui viennent de ces villages-là. Ça fait que les gens se connaissent. Hein. Ça fait que c'est plus facile que dans les grands centres, probablement, où ce que tu connais souvent pas ton voisin, eux autres, ils se connaissent. Ouais. Ils connaissent, bon, le mononcle, ma tante, la parenté. Ça fait que ça fait quelque chose d'intéressant. Ouais. Oui.
600 personnes aînées aidées, 55 000 heures de service. Ça, c'est par année, Muriel?
Non, c'est par mois.
C'est par mois? Oh, oui. C'est énorme.
Oui, c'est énorme.
Donc, des employés qui travaillent pour vous, donc des auxiliaires familiaux, c'est comme ça que vous les appelez.
Oui. Oui.
Vous les formez comment, ces personnes-là?
Nous, on est chanceux parce qu'on a une grosse agence, donc on peut se permettre, on a une enseignante qui donne la formation, une formation maison. Elle donne des ateliers de formation sur la maladie d'Alzheimer, le cancer, la dépression, oui. Communication. Le RCL, tout ça, là. Oui.
On parlait tout à l'heure d'un certain pourcentage de vos auxiliaires familiaux, Muriel, qui sont également des personnes aînées. Ça leur rapporte quoi, eux, dans leur fin de carrière, de travailler pour vous à votre agence?
Bien, c'est ça, c'est que souvent, ces dames-là, les enfants sont partis, ils sont encore en forme, mm-hmm. ils trouvent le temps long. Ça fait que ça leur procure un bien-être, d'aider. Aussi, financièrement, ça peut arrondir les fins de mois. Le seul problème qu'on a, je ne sais pas si ça existe partout, je ne sais pas si c'est au Canada. En tout cas, ici, une personne au Nouveau-Brunswick, mais je ne sais pas si c'est partout, je ne me suis pas renseignée, une personne qui a sa pension et puis le supplément et tout ça, elle a le droit de gagner 3 000 $ par année. Si elle gagne plus que ça, ben là, ils coupent dans les pensions. Là. C'est ça qui est triste, là. Parce que ces femmes-là ont du temps donné.
Des compétences aussi.
Beaucoup, j'allais dire, beaucoup de compétences. De la patience. Tu sais, je veux dire, ils ont tout ce que ça prend pour donner un coup de main aux personnes âgées. Puis les personnes âgées se sentent bien avec ces dames-là. Tu sais, ils peuvent jaser toutes sortes de choses. Puis... Mais le seul problème, c'est ça. C'est que s'ils gagnent un petit peu trop... Là, ça tombe, ouais. ça coupe dans leur pension, dans leur petit revenu qu'ils ont. Ça fait que c'est triste. Là, il faudrait faire des commentaires peut-être.
Oui, prendre des mesures, bien certainement.
Des mesures, oui.
Oui, parce que ça fait qu'elles peuvent, ces dames-là, en particulier, travailler moins d'heures pour vous.
Oui, mais c'est ça. Nous on tu sais, je dis parce qu'on a des heures, on a des heures le matin, on a des heures l'après-midi, le soir. Puis les personnes qui viennent nous voir, ils nous disent, bon, ben moi, j'aurais tant d'heures à donner par semaine. Mm-hmm. Okay. Tu sais, comme les personnes âgées, bon, ben les autres, ils peuvent pas travailler beaucoup, là. Si tu comptes ça, 3 000 $, ils peuvent peut-être bien travailler, je vais le compter vitement, ils peuvent peut-être bien travailler 200 heures dans toute l'année, là.
Ouais.
Tu sais?
Oui.
C'est pas beaucoup.
Vous couvrez un large territoire aussi, Muriel, une douzaine de villes et villages dans votre région, Edmundston-Grand-Sault.
Oui.
Ça prend une mobilité aussi de ces gens-là. C'est une agence qui me semble assez unique. Est-ce que vous êtes inspiré de d'autres modèles au Canada ou ailleurs?
Non, ça a juste commencé comme ça, 20 ans passés. Moi, j'ai acheté l'entreprise. Et puis, nous autres, ce qu'on fait, c'est que, disons que, bon, on a une demande, disons, à Edmundston. Bien, on va prendre quelqu'un qui est de la région d'Edmundston.
Ah, ouais.
On est chanceux, on a des ressources. Hein? Ou quelqu'un de, disons, au Lac Baker. Bien, on va prendre des gens qui sont de Lac Baker. C'est qu'ils n'ont pas besoin de voyager, là. Surtout l'hiver, ici, avec les... On a des montagnes, puis des côtes, et puis tout ça. Oui. C'est qu'on est chanceux, on a une bonne... On a des gens qui travaillent pour nous qui sont... qui sont... on a des gens assez pour travailler pour nous. La seule chose, c'est qu'ils ne sont pas reconnus, là, tu sais, comme dans le système de santé, comme... moi, des fois, je dis, on devrait leur donner plus d'avantages, tu sais, des avantages sociaux.
Des assurances, oui.
Bon, ben c'est ça... C'est ça, on verrait le taux d'intérêt de la profession augmenter aussi, hein?
Oui.
Et puis, c'est ça qu'on aurait besoin, c'est une gamme d'avantages sociaux. Et puis, ça assurerait la relève, hein?
Oui. Mm-hmm. En terminant, Muriel Bourgeois, bon, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 20 ans que vous travaillez au sein de cette entreprise, de votre agence. Vous êtes également en fin de carrière. Est-ce que vous allez vouloir bénéficier éventuellement de ces soins-là ou même vous-même là, de continuer à y travailler?
Bien, probablement, mais je suis en fin de carrière, mais je suis pas prête de... C'est ça, je travaille à 3 jours semaine, puis je vais continuer probablement... à aider, donner un coup de main certain, hein?
Oui. Et je lisais que l'un de vos plus grands souhaits pour cette retraite éventuelle, c'est de rester proche de vos amis. C'est un bon souhait, ça, Muriel.
Oui, proche de mes amis, puis me loger... ce que je disais à Sébastien à Radio-Canada l'autre jour, là, d'avoir une grande maison, puis avoir toutes mes amies, eux et mes amis I, et puis avoir chacun son local ou son petit appartement, mais manger dans une grande cuisine, puis comme je disais, envoyer quelqu'un, embaucher une couple d'auxiliaires familiales pour aller nous chercher notre vin et puis tout ça. Hein?
Et bénéficier d'un espace commun pour rester près
à
des...
campagne.
Ben voilà, près des vôtres. Muriel Bourgeois, vous êtes directrice générale du service d'aide à la famille d'Edmondston-Grandsault. Tout ça du côté du Nouveau-Brunswick. Ça a été un plaisir de vous parler. Salutations à tout le monde chez vous.
Merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir.
Bye. Dernière partie de cette émission, c'est bon pour la santé. C'est mon moment coup de cœur et je vous parle de quelqu'un qui a fait parler de lui énormément dans les dernières semaines, notamment à cause d'un passage plutôt controversé du côté de Tout le monde en parle. Vous l'aurez peut-être deviné, c'est Olivier Bernard, alias le pharmacien, qui est passé il y a à peu près 2 semaines sur le plateau de Guy Lepage pour parler de cette nouvelle émission du côté d'Explora. Ici, Explora, les aventures du pharmacien, son émission de télévision donc qui a commencé vendredi dernier, le 2 décembre. Oui, passage controversé parce que ce sont des propos qui ont suscité beaucoup de réactions. Olivier s'est attaqué ou, bon, peut-être a abordé des sujets plutôt sensibles, homéopathie, jus détox, aliments bio, des sujets qui intéressent le grand public et qui suscitent énormément de questions. Donc, il a répondu, disons, a déboulonné aussi des mythes dans des propos qui sont accessibles mais qui peuvent parfois un peu déranger. Et c'est ce que l'on retrouve dans sa série à ICI Explora. Ce que veut faire depuis le début, hein, le pharmacien, c'est de différencier le vrai du faux, s'en tenir aux faits, s'en tenir à la science et d'aborder des questions sur l'alimentation, sur la santé. Les émissions, c'est le vendredi, diffusées le vendredi à 19h, 19h30 sur ICI Explora. Il continuera à aborder ces sujets, donc de parler d'homéopathie, de parler de sirop contre le rhume. Il n'a pas la langue dans sa poche, Olivier Bernard. Il est drôle aussi. Si vous avez envie d'entendre parler de ces sujets-là, je pense que ça peut être une très bonne plateforme pour parler de bouffe bio, pour parler de produits détox, pour nettoyer notre foie. Ça se fait dans une grande rigueur, une vulgarisation aussi, et aussi des concepts qui sont amusants et encore une fois accessibles. La BD, il utilise beaucoup le dessin, le BD et l'humour pour parler de ces sujets-là, Olivier Bernard. Donc, vous m'en direz des nouvelles parce que c'est un type qui est plutôt sympathique et un très bon vulgarisateur scientifique. Olivier Bernard, alias le pharmacien. C'est ce qui met fin à cette émission de C'est bon pour la santé. Avant-dernière émission, avant les fêtes, non, il en reste deux quand même, je veux pas vous alerter. Je remercie Jean-Sébastien Laliberté derrière sa console. C'est Anne-Laure Janson à la recherche et à la revue de presse de cette émission, Christiane Campagna aux médias sociaux. On est en rediffusion, je vous le rappelle, à 17h. Je vous donne le numéro de téléphone pour nous joindre. C'est le 1-800-361-0635, le poste 220. Vous pouvez également nous joindre sur notre site web, vuesetvoix.com. On est présent sur Facebook, on est présent sur Twitter aussi. On aime vous entendre, on aime avoir écho de vos questions. Ne vous gênez pas, c'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles. C'est Marianne Paquette au micro. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye-bye.